Voilà, un grand bonjour. Tellement content d'être avec vous ce matin. Bon, vous savez que j'étais censé donc vous faire sur l'histoire de l'Église, mais voilà. Et bon, j'ai eu quelques soucis de santé. Je suis un vrai miraculé, hein. Voilà, je vais bien, mais voilà. ça a été un peu compliqué pendant plusieurs mois. Voilà. Ok. Donc. On m'a dit qu'il y avait des gens, je ne connais pas tout le monde du coup, voilà. On m'a dit qu'il y avait des gens qui venaient de Belgique. Oui, ok. Du Luxembourg aussi. Oui, ok, c'est bien. Ok. Et des Suisses. Oui. Formidable. Voilà, formidable. Ok, il n'y en a pas qui viennent du Québec, non? Non, ok, ok, voilà. Seigneur, merci pour ta présence. Tout ce que nous partageons, Seigneur, n'a de sens que parce que nous voulons grandir dans ta connaissance à toi, Seigneur. C'est de toi que nous voulons apprendre. Nous voulons apprendre sur tes façons de faire, sur tes comportements, sur ton cœur, sur ton caractère. Et en regardant, Seigneur, comment tu fais avec ton peuple, nous apprenons de toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci, alléluia. Donc, comme vous l'a dit Mélanie, avec l'école de Lamandier, l'école de théologie qu'on a mis en sourdine pendant un temps, voilà, l'école, l'histoire de l'Église, on faisait ça en 7 mois, tous les week-ends et tous les jours fériés. Voilà. Avec un fonds de cours de, je ne sais pas combien, 800 ou 900, je ne sais pas combien, enfin, je ne me souviens plus. Voilà. Ok. Là, on va donc avoir quelque chose de résumé, mais tout de même quelque chose qui va vous montrer un coup d'œil général intéressant sur l'histoire de l'Église. Vous ne trouvez pas en français. On me demande sans cesse d'écrire des livres là-dessus, c'est très bien, mais il n'existe pas en français, je dirais, de bons livres sur l'histoire de l'Église. Ok, c'est aussi simple que ça, hein, on vous le dit. Il y a une bibliographie. Je vous mettrai un papier là. Je vous conseille surtout de lire un livre qui sert d'introduction, l'Église ignorée, hein, ok. Et puis un livre où il n'y a pas tout, mais vraiment pas tout. Ça, c'est des vieilles éditions. Le précis d'histoire de l'Église de Jules Marcel Nicole. Voilà, c'est bien, mais honnêtement, ce que vous ferez. Donc avec moi, c'est juste une introduction. Après, c'est Dominique qui a fait l'école biblique aussi et qui est bien formé, qui est une prof d'histoire aussi. Voilà, vous aurez du solide. Hein. Et puis, il y aura des questions-réponses. Donc, le vrai titre, en fait, c'est, je vous l'ai mis, « Histoire de l'Église et histoire des ministères et histoire des manifestations du Saint-Esprit ». Avec ça, hein, voilà. Ok. Donc, vous avez... Je vous ai mis, donc là, tout le monde a ce papier-là, hein? Ok? Voilà. Donc, on va donc traiter quelques notions de base, un rapide survol sur la glorieuse histoire de l'Église de Jésus-Christ à travers les siècles. On va donc être obligé de faire des choix, d'énormes choix, mais tout de même, voilà, c'est intéressant. Vous pourrez disposer d'un fond de cours, vous voyez qu'il y a des papiers pour vous, hein? Avec beaucoup de citations, parce que pour moi, quand on traite l'histoire de l'Église, il faut faire des citations des gens. Traiter de l'histoire de l'Église primitive, si on cite pas Irénée, Tertullien, etc., alors on parle de quoi, hein? Il faut on s'appuie sur les vraies citations ou des citations aussi d'historiens, d'accord. Et puis, je vous ai mis quelques outils. Donc, il y a un arbre, vous avez un arbre de l'histoire de l'Église, d'accord. C'est un arbre que j'ai fait et qui est mis à jour, notamment vers le haut. Alors, je vais vous montrer comment il fonctionne, hein, mais ça, c'est pour que vous puissiez... je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors, le voilà. Donc, vous l'avez là. Oui, vous l'avez là. OK. Alors. Oups. Alors, attendez voir. Regardez comment il fonctionne. Vous voyez les racines, ce sont les apôtres. Hein, et regardez, ici, vous avez Pierre et Jean, vous voyez. OK. Hein, et voyez, ici vous avez Polycarpe. Polycarpe était un disciple de l'apôtre Jean, notamment à Éphèse, d'accord. Et Irénée, qui est quelqu'un d'origine grecque, mais qui a évangélisé en Gaule, notamment à Lyon, eh bien, c'était un disciple de Polycarpe. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne, horizontalement et puis verticalement. Voilà. Par exemple, Clément, ici, a travaillé avec Paul. On le trouve dans les Épîtres, cela, n'est-ce pas? Ok, voilà. Et puis, voilà. Et vous voyez que chaque couleur correspond à un type de ministère. Vous avez le corps de Christ, voyez ici, vert, environ lors de 150. Il y a une sorte de demande de branche qui va de côté, qu'on va appeler l'Église catholique, qui après se scindera aussi en Église orthodoxe, ok? Voilà. Et puis le corps de Christ qui saigne, l'arbre qui saigne, la Saint-Barthélemy, d'accord? Hein? Ok? Ça vous dit quelque chose, la Saint-Barthélemy? Bon, c'est drôle, en français, généralement tout le monde connaît ça, le 14 juillet, la Saint-Barthélemy, hein, qui est le massacre des protestants par Catherine de Médicis et puis Charles IX, d'accord? Hein? Voilà. Ok. Et puis ici, vous avez par exemple Maria Woodworth-Hatter. Alors Maria Woodworth-Hatter, c'est la personne, sans aucune hésitation, qui a vu le plus de miracles, qui a eu le ministère le plus puissant de toute l'histoire de l'Église depuis les temps apostoliques. D'accord? Les miracles, voilà. Alors, Maria Woodworth-Hatter, c'est, je ne sais pas qui est-ce qui en parlera finalement, Dominique, c'est toi ou moi, je ne sais pas, on verra encore. Hein. En tous les cas, c'était une femme qui a vécu, qui a eu un ministère pendant 40 ans et qui a vécu au 19e et début du 20e. Okay, hein. Ceux qui sont habitués à l'Église chez nous, on en parle régulièrement. Okay. Voilà. Et puis la grande moisson, voilà. Ok. Donc on arrête là. Et puis je vous ai mis aussi. Okay. Je vous ai mis aussi je vous ai mis une flèche chronologique, d'accord, pour vous aider un peu à vous repérer au cours de l'histoire de l'Église, d'accord, hein. Alors on commence avec l'Église primitive. Je vous ai mis quelques noms: Clément de Rome, Justin Martyr, Ignace, Polycarpe, Irénée, Origène, Tertullien, etc. Voilà. Le Moyen Âge avec le fameux Sucat qui a évangélisé l'Irlande, qu'on a surnommé Patrick, etc. Les Vaudois, qui étaient des églises évangéliques bibliques en plein Moyen-Âge, hein, et qui étaient dans toute l'Europe. Il faut savoir qu'il y avait en France, ou dans certaines régions, comme par exemple en Allemagne, comme par exemple en Bavière, il y avait dans certaines régions bien plus d'églises évangéliques qu'il y en a aujourd'hui, en plein Moyen-Âge. Bien sûr, il y avait des persécutions, tout ça. On leur donnait des surnoms, souvent des surnoms pour se moquer d'eux, etc. Mais on leur donnait des surnoms, des Vaudois, etc. Généralement, on les a appelés les Vaudois. Okay. Voilà, des Bogomiles, etc. Voilà. Okay. Et puis, les temps de la Réforme. Quand je dis les temps de la Réforme, on ne parle pas de la Réforme. La Réforme, c'est Martin Luther, c'est Zwingli en Suisse, c'est Calvin, c'est Knox en Écosse. Mais... Les temps de la Réforme, il n'y a pas eu que les réformateurs. Il y a des mouvements évangéliques qui ont été beaucoup plus grands que la Réforme. On les a appelés généralement les radicaux. On leur a donné certains surnoms pour certains, comme par exemple les anabaptistes, ceux qui rebaptisaient, d'accord, qu'on a surnommés après les mennonites, okay, et qui étaient des églises vivantes à l'époque. Hein. Nous sommes dans les années 1525, d'accord. Hein, quand le mouvement ménonite commence, c'est les années 1523, 1525, il faut savoir que ce sont des églises vivantes, très bibliques, avec de très, 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 très nombreux dons spirituels, parler en langue, prophétie, interprétation, vision, songe, et surtout, des tas de résurrections de morts. Les gens étaient persécutés, on les enterrait vivants, on les noyait vivants, hein, on leur disait, ben, soit, puisque tu parles d'immersion, ben soit immergés, puis on les noyait, on les condamnait à mort. Hein. C'était les catholiques qui faisaient cela, mais aussi les luthériens, il faut savoir ça. Hein. Voilà. Luther a condamné à mort de très nombreux ménonites. Voilà, c'est comme ça. Et puis les ménonites allaient, les anabaptistes, à l'époque, on ne les appelait pas ménonites encore, eh bien, ils allaient rechercher dans l'eau des gens qui avaient été noyés, ils allaient déterrer des gens qui avaient été enterrés, qui étaient morts, ils les amenaient dans les réunions, et dans le nom du Seigneur Jésus, les gens se levaient et témoignaient. C'est l'histoire de l'Église. Intéressant quand même, hein. Alors, on est en 1500 et quelques, Hein? Alors, quand on parle d'église vivante aujourd'hui, voilà ce qu'est une église vivante. OK. Bon. OK. Ceci étant dit, voilà. Et puis, la flèche avec les réveils du 18e et 19e, bien sûr, avec Maria Bella Woodward-Fetter. Et puis, voilà. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, avec Bethel, avec John Arnott, que vous avez vu dans l'église ici, à Toronto, de Toronto, etc., etc. Et puis, le fameux réveil en Inde avec Jussie Chacko et Impart. Voilà. OK? Ça, c'est des outils pour vous y retrouver. Parce que quand on vous balance des choses sur l'histoire de l'église, souvent au niveau des dates, les gens sont un petit peu, je ne sais pas s'il faut dire perdus, parce que vous êtes sauvés. Mais voilà, OK. Bon, ceci étant dit, on va continuer. Alors, voilà, OK, voilà. Donc, vous aurez des flèches chronologiques, hein, voilà. Je crois que, Dominique, tu feras aussi des flèches chronologiques, tu m'as dit que tu allais en faire. Voilà. Il y a des fonds de cours. Vous verrez ici, par exemple, des fonds de cours avec des citations. Il y a des images sur l'histoire de l'Église. Ici, par exemple, vous avez une image. Il faut quelques images quand même. Hein. Voilà. Hein. Par exemple, ici, vous avez un tableau qui vous montre le réveil des Cévennes. Hein. Le réveil des Cévennes, c'est vers quelle époque? C'est pour voir un petit peu où vous en êtes. Hein. C'est vers quelle époque? C'est avant ou après Jules César? Alléluia. Hein. OK. C'est avant ou après Napoléon? C'est avant, c'est Louis XIV, d'accord? Et Louis XV, ok, voilà. Hein, il y aura des tas de questions-réponses, quelques conseils en bibliographie, d'accord. Ok, donc on y va tout doucement. Oui. Tout d'abord, affirmons cette grande vérité, il y a toujours eu, tout au long des siècles de l'histoire de l'Église, des multitudes d'églises bibliques, toujours, hein, selon les normes du Nouveau Testament. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien des églises, et bien des églises évangéliques, ne sont pas bibliques. Bah oui, bah oui. Vous savez que vous avez le droit de dire Amen, Alléluia, si vous êtes d'accord. Hein. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main et vous le dites. Et on priera pour vous, pour que vous alliez mieux. OK. Bon, alors ça veut dire quoi des églises bibliques? Ça veut dire des églises vivantes et évangélisantes qui forment de vrais disciples. OK. Des églises qui pratiquent le baptême d'eau par immersion pour les nouveaux croyants, même si les premiers anabaptistes qui prêchaient le baptême pour les adultes, c'est à cause de ça qu'ils étaient persécutés, ont, pendant un bout de temps, baptisé les gens à la louche. Baptisé à la louche. Ou bien avec des seaux d'eau. Bon, c'était pour l'histoire. Hein, okay. Mais on vous en reparlera. Hein, Dominique, on va bien rigoler. Là. Bon. Ensuite, des églises qui connaissaient les dons spirituels, des guérisons, des délivrances, des miracles et des manifestations. Alors, j'ai mis multicolore, mais c'est les manifestations polymulticolore du Saint-Esprit. Littéralement, polupoikilos, le terme grec, c'est polymulticolore. Vous pouvez corriger. Normalement, c'est corrigé sur mon truc, là, et je sais pas pourquoi, là, il s'est pas corrigé. Bon, voilà. OK. C'est des églises qui ont eu à leur sein les différents ministères. Ministères d'apôtres, de prophètes. Il y avait des prophètes, il y avait des apôtres en plein Moyen-Âge. Hein, bien sûr. Des églises pratiquant une pluralité et une complémentarité des ministères à la tête de l'église locale. C'est-à-dire, quand vous ouvrez votre Bible, il n'y a pas une église qui est dirigée par un pasteur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça, quand vous ouvrez la Bible. Ça n'existe pas. Hein? Citez-moi le pasteur d'Éphèse. Le pasteur principal de l'église de Philippe. Ben non, il n'y en a pas. Toutes les églises étaient dirigées par une équipe d'anciens, qu'on appelait des anciens, des évêques, des présidents, des dirigeants. Il y a 7 noms, en fait. Hein? Et puis chacun exerçait son ministère. Par exemple, l'apôtre Pierre, lorsqu'il se présente dans la première épître de Pierre, il se présente comme ancien et apôtre. Parce que dans l'église où il était ancien. Et il était en même temps apôtre. D'accord? Voilà. Hein? Alors, et puis chaque ancien exerçait son ministère. Aujourd'hui, souvent dans les églises, on ne sait même plus ce que c'est qu'un ancien d'ailleurs. Hein? C'est quelqu'un qui fait passer la collecte et puis qui dit bonjour monsieur. Mais ce n'est pas ça un ancien. Un ancien, c'était quelqu'un qui dirigeait une église. Hein, voilà. Et quelqu'un pouvait être dans le ministère et ne pas forcément diriger une église, parce que ce n'est pas forcément son ministère. Voilà. Hein, okay, voilà. Les chrétiens s'appelaient frères, sœurs, disciples du Christ, croyants, fidèles, chrétiens, il y a des tas de noms, mais ils ne portaient pas d'étiquette particulière. Voilà. Dans l'histoire de l'église, les gens, par exemple au Moyen-Âge, s'appelaient frères. Ensuite, on leur donnait des surnoms. Entre eux, ils ne s'appelaient pas anabaptiste, par exemple. C'était des surnoms qu'on leur donnait pour se moquer. Hein? Anabaptiste ou catabaptiste, d'abord, qui veut dire vers le bas, cataclysme, etc. Hein, catabaptisme, pour se moquer. T'as un baptême qui vaut rien, un baptême par le bas. Voilà. Hein. Et puis des églises se nommaient assemblées, églises, rassemblements, sociétés, comme dans le réveil méthodiste. Et ils ne faisaient partie d'aucune dénomination, d'aucune fédération d'églises, d'aucune religion, d'aucune étiquette particulière. Mais elles avaient toute la volonté de travailler en communion avec tout le corps de Christ. Eh bien oui, ben oui. Durant des siècles, j'allais dire durant des millénaires, il y a des tas d'églises, encore aujourd'hui, qui ne s'appellent pas ni pentecôtistes, ni darbistes, ni mennonites, ni notruites, ouistes. Hein, voilà. On est chrétien, on est frères et sœurs, et on veut travailler avec le corps de Christ. Voilà. Ça va jusqu'à présent, vous suivez ? Bon. Donc, en fait, on va faire l'histoire de l'Église, et puis on va fouiller tout ça, bien sûr. Hein. Alors, je vous mets quelques citations, quand même. Adoniram Judson Gordon, célèbre auteur et ministère de guérison, dit ceci : « Chaque fois qu'un réveil de la foi primitive et de la simplicité apostolique a eu lieu, il est accompagné de ces miracles purs et évangéliques qui ont caractérisé l'ère apostolique. Ils se tiennent près du berceau de toutes les réformes spirituelles, comme il en a été pour la naissance de l'Église. » C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des miracles dans l'histoire de l'Église. Voilà, hein. Voilà. Vous savez ce qu'on appelle le vin nouveau, les gens dans le rire de l'esprit, tout ça, mais en plein Moyen-Âge, au moment de la réforme. Il y avait des gens qui étaient dans le rire de l'esprit, qui prophétisaient. Vous voyez, c'est pas. Voilà, je veux dire, c'est l'histoire de l'Église. Alors, est-ce qu'à l'école, est-ce qu'au collège, au lycée, ou en fac, on vous a enseigné ça sur l'histoire de l'Église ? Ceux qui sont profs d'histoire savent qu'en fac, on vous parle pendant quoi ? 10 minutes, à la limite, des Vaudois. Alors que les Vaudois, il y en avait plein en Europe. Des églises évangéliques durant le Moyen-Âge, et ils étaient face à l'acquisition, au bûcher, hein, aux perquisitions, aux persécutions, pardon, voilà. Hein. Pendant que l'on construit la cathédrale de Strasbourg, on est en train de la construire sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg, en une journée. On les avait liés par paquets de sang, on exécute 1300, 1400, prédicateur vaudois. OK ? Ça, c'est l'histoire de France. Qui a entendu ça quand il est à l'école ? On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. OK ? Bon. Alors, le mot réveil. Ah oui, je vous ai mis aussi quelque chose de Rick Joyner. Chaque grand mouvement de l'esprit a permis de restaurer la puissance de la guérison, des miracles, des grands ministères d'enseignement et de la prophétie dans l'Église. Donc, il y a toujours eu des dons. Et il faut savoir, il n'y a aucun mouvement qui a duré dans l'histoire de l'Église s'il n'y avait pas un fort ministère d'enseignement. Tout au début, ou alors très rapidement. Tout au début, comme par exemple avec le réveil des méthodistes ou le réveil des anabaptistes, il y avait des docteurs vraiment, tout au début du mouvement. Des gens qui étaient habitués, quand je dis docteur, à regarder la Bible en hébreu, en grec, qui fouillaient la Bible, qui savaient ce qu'ils disaient, quoi, hein, et qui avaient des disputations publiques avec les docteurs catholiques ou luthériens, par exemple, etc. Voilà. Hein, OK ? Et puis parfois, les ministères d'enseignement venaient très rapidement après le début. S'il n'y avait pas ça, le mouvement, il s'étiole quasiment tout de suite, hein, au bout de très courtes années. OK. Le mot réveil, avec le sens spécifique chrétien, il a été utilisé pour la première fois en 1702, revival en anglais, voilà. Il se référait donc à des conversions en masse à Jésus-Christ, avec de grands rassemblements pour la prière et l'évangélisation. Mais en fait, le réveil, c'est un mauvais mot. Parce que, en fait, c'est la vie normale de l'Église. Une Église vivante est une Église réveillée, mais c'est normal. C'est d'ailleurs Bill Johnson qui dit ceci, je crois que Johanna prêchait là-dessus d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Je dirais plutôt que le réveil n'est pas une exception. Le réveil est la norme. Les signes, les merveilles, les miracles sont aussi normaux pour l'Évangile qu'il est normal pour vous de vous lever le matin ou de respirer. Le réveil, c'est la vie chrétienne. On ne peut pas séparer les deux. Voilà. OK ? Alors, OK. Le réveil n'a pas toutes les... Alors, je vous mets une citation qui est intéressante, mais le mot réveil, je ne l'aime pas. Parce que, voilà, c'est la vie d'église, la vie normale de l'église, la vie normale de l'église. Le réveil n'a pas toutes les réponses. On peut en comparer l'explosion à des soldes de grands magasins. Celles-ci peuvent être spectaculaires, mais le plus gros des affaires se fait dans les ventes de chaque jour, tout le long de l'année. On ne va pas lire toutes les citations. Mais en fait, bien sûr, il y a des moments où il y a, par exemple, le réveil du Pays de Galles, le quatrième réveil du Pays de Galles, celui de 1904. En quelques mois, il y a 100 000 personnes qui découvrent le Seigneur. C'était beaucoup, c'était beaucoup. C'était suite à une vision qu'avait donc reçue Roberts, et le Seigneur lui avait montré le chiffre 100 000. Bon, ok, et en quelques mois, il y a eu 100 000 conversions, ce qui était pas mal. Hein, voilà. Mais en fait, quand est-ce qu'il y a le plus de gens qui viennent au Seigneur sur les siècles et les siècles de l'histoire? C'est tous les jours. Tous les jours, les gens se tournent vers Dieu, tous les jours. Hein. Il y a des tas de conversions partout. Voilà. Donc, Pierre, tu étais au Népal, c'est ça? Hein? Ok. Alors, il y a un ministère apostolique au Népal qui s'appelle Amos. Est-ce que tu en as entendu parler? Ok. Il y a un ministère, en ce moment, il est vivant, donc il a changé de nom. Il avait un nom népalais, et puis voilà. Et au Népal, il y a en ce moment de nombreuses créations d'églises, tant dans les villes que surtout dans les campagnes, dans les montagnes. Et il y a un formidable ministère apostolique qui s'appelle Amos. Voilà. Ça bouge partout dans le monde aujourd'hui. Hein, à des plus grands lieux de réveil dans le monde aujourd'hui, c'est en Indonésie, le pays où il y a soi-disant le plus de musulmans. Hein. Les chiffres officiels du gouvernement, hein, ce n'est pas des chiffres donnés par des évangéliques, dans le Grand Jakarta, il y a entre 30 et 40% d'évangéliques dans une église le dimanche matin. Vous avez le droit de dire waouh ou alléluia ou quelque chose de ce genre. Hein, voilà. Ok, super. Donc je passe rapidement là-dessus. Alors pourquoi s'intéresser à l'histoire de l'église? Bon, rapidement. Toute la Bible, en particulier les évangiles, les actes des apôtres, mais toute la Bible, ce sont des récits historiques. Regardez, bon, il y a des choses doctrinales, comme les épîtres, mais c'est plein d'histoires, hein? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Vous lisez les chroniques, ce sont des histoires. Hein? Voilà quoi. Hein? L'histoire de l'Église fortifie la foi, démontrant que les miracles, les guérisons, les dons spirituels, les manifestations polymulticolores du Saint-Esprit, la pluralité et la complémentarité des ministères ont toujours existé à travers l'histoire de l'Église. Donc, il y a toujours eu des miracles, il y a toujours eu une complémentarité des ministères, toujours dans l'histoire de l'Église. C'est très intéressant de voir ça. Hein. Vous savez, parfois, dans les milieux chrétiens, on dit « Oh, on est une Église réveillée ». Puis en fait, franchement, on est en retard sur tout ce qui se passait par rapport au Moyen-Âge dans de très nombreuses Églises. Quoi, hein. Voilà. Hein. Ensuite, c'est essentiel pour faire comprendre aux chrétiens aujourd'hui qu'ils font partie d'une immense et d'une formidable famille étendue à travers les siècles, nous sommes des héritiers. Vous savez, des chrétiens qui disent « on n'a pas besoin de vie d'église », c'est grotesque. Hein. Un poisson nage, un oiseau vole, un chrétien a une vie d'église. Voilà. Hein. Bon. Ça nous permet de comprendre nos racines, de nos venons, qui nous sommes. Hein. Écoutez, tout de même, quoi, faut savoir que si vous pouvez lire une Bible aujourd'hui, il y a eu en Europe environ, simplement durant le Moyen-Âge et l'époque de la Renaissance, par l'Inquisition, etc., plus de 50 millions de personnes sur les bûchers. Comprenez ça? Comprenez ça? Nous sommes les héritiers de ces gens-là. Alors les gens qui disent « Moi, je ne peux pas venir à un culte parce que ça ne me dit pas aujourd'hui, je vais voir téléfoot. » Je m'excuse, on n'est pas dans le même monde, hein. Voilà, ok. Alors, faire comprendre que nous pouvons beaucoup apprendre de l'histoire de l'Église, car pendant des siècles, Dieu a travaillé à amener son Église à une situation bien particulière dans les temps de la fin. En étudiant l'histoire de l'Église, on apprend que Dieu est en train de faire aller son Église pour l'amener vers les temps de la fin. Une Église bien spéciale. Hein? Ok. Alors, quelques citations bien connues. L'une des faiblesses, ben si quelqu'un veut dire Enzo, tu veux lire la citation de Rick Joyner là? L'une des faiblesses? Vas-y, fort. Voilà. Alors, je dirais ça, il y a quelques années, quand on parlait sur l'histoire de l'Église, Moi, ça fait à peu près 45 ans que je m'intéresse à l'histoire de l'Église, mais quand on en parlait dans les milieux évangéliques, franchement, on a l'impression qu'on saoulait les gens, qu'on fatiguait. Aujourd'hui, on nous demande d'en parler. Donc ça a bougé, vous voyez, ça a bougé. Hein, alléluia. Le fait que l'Église... Ben, continue, Enzo, la citation suivante. Le fait que l'Église... Vas-y. Enzo. Vas-y. Le fait que l'Église... Fort. Voilà. Randy Clark, hein, qui a fait partie de celui qui a lancé le réveil de Toronto avec John Arnott, dit ceci. Malheureusement, nous vivons dans une culture d'Église qui accorde une très faible valeur au riche héritage de l'histoire de l'Église. Nous avons tendance à regarder les mouvements du Saint-Esprit d'aujourd'hui à travers la toute petite lunette du présent, au lieu de les regarder par le télescope de l'histoire. Notre histoire est une merveilleuse histoire de la façon dont Dieu a agi parmi son peuple à travers la vie de l'Église entière. Je passe rapidement. Hein. Toujours Rick Joyner. Ce n'est pas possible de comprendre correctement le présent sans avoir au moins une connaissance et une compréhension du passé. Une connaissance et une compréhension saine du passé et du présent sont nécessaires pour voir prophétiquement le futur et pour le comprendre. Ok. Il est positif là-dessus, Rick Joyner, regardez la citation là, le grand intérêt qu'on voit se manifester de plus en plus au sein de l'Église pour l'histoire est, semble-t-il, une grâce de Dieu pour nous aider à agir cette fois comme il faut. Ne négligeons pas une si grande grâce. Ok, bon, je passe rapidement, vous pourriez lire tout ça chez vous. Hein. Alors, quelques mots, la connaissance augmente, la pluie tombe, le vin coule. Voilà, il y a plus de chrétiens authentiques en cette génération qu'il n'y en a jamais eu au total en additionnant tous les chrétiens de toutes les générations additionnées des siècles passés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous assistons à la plus grande moisson d'âmes de tous les temps et ce n'est qu'un début. Nous vivons une époque extraordinaire où Dieu prépare les cadres pour la moisson surabondante qui vient. Si vous êtes là, c'est parce que vous espérez que Dieu va faire quelque chose avec vous. Il va y avoir une grande moisson qui a déjà commencé, on est déjà dedans, hein, qui a déjà commencé. Faut savoir que ces dernières années, en Iran, il y a 4 millions de personnes qui ont quitté l'islam pour se tourner vers des églises évangéliques. Ces toutes dernières années, en Iran. En Iran. Des dizaines de milliers d'églises nouvelles naissent en Inde aujourd'hui, chaque année. Des brahmanes demandent la délivrance, sont délivrés et vont dans des écoles pour être dans le ministère. Et des milliers d'églises, le fameux mouvement Impart, hein, qui a comme projet d'implanter 100 000 églises avant l'an 2030, mais ils en sont déjà à 27 000, hein, quelque chose comme ça, tout se démultiplie. À la tête de chaque église, ils ont une équipe d'anciens. Non mais c'est l'Inde qui nous dit, regardez comment il faut travailler. Regardez comment il faut travailler. Ok. Au temps de la fin, la connaissance sera augmentée, dit le prophète Daniel. Or bien sûr, de nos jours, non seulement les choses sont vécues, mais elles sont aussi enseignées. On explique aux gens. Hein. Par exemple, dans les églises, moi par exemple, la première église où j'étais, bon, c'était un pasteur, une église, on fonctionnait comme ça. Mais on ne m'a jamais expliqué pourquoi c'était un pasteur. On m'a jamais expliqué. D'ailleurs, il n'était pas du tout pasteur, il était évangéliste. Et une fois, quand il a voulu expliquer l'épître aux Romains, j'ai compris que ce n'était pas un pasteur. Non, mais c'était un beau gars. J'aimais beaucoup aller dans la rue pour évangéliser avec lui, mais ce n'était pas un pasteur. Mais voilà. Hein? Ok. Alors aujourd'hui, la connaissance augmente, la connaissance sur Dieu, la connaissance intime de la personne même de Dieu, ça c'est le plus important. Le but, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. Une connaissance plus profonde et meilleure des doctrines, alléluia, une connaissance de l'histoire de l'Église, puis la connaissance des réveils actuels à travers le monde grâce aux médias modernes. Quoi. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Iran, on sait ce qui se passe en Chine, on sait ce qui se passe en Inde. On connaît le réveil qui se passe aujourd'hui au Groenland chez les Inuits, qui sont dans le rire de l'esprit. Ah oui, voilà quoi. Hein. Bon, il n'y a pas qu'en Alsace que ça bouge. Hein. Voilà. Alors, je passe rapidement. Pain, vin, huile, vous savez, dans la Bible, les symboles sont nombreux, hein, pour le Saint-Esprit, colombe, vent, feu, etc. Mais souvent, la Bible associe le pain, le blé, le froment, le vin nouveau, que la Bible appelle parfois le mou, et puis l'huile. Je vous ai mis quelques versets, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein, quelques versets qui parlent de ça, voilà. Alors, le pain, c'est quoi ? Le pain, c'est le symbole de Jésus lui-même. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. D'accord ? Hein ? Ça nous parle de Jésus, de son œuvre à la croix, et ça nous parle en même temps de, il y a la notion, comme dans Apocalypse 3, de la communion, l'intimité avec Dieu. C'est rompre le pain et manger le pain à table. Hein. C'est l'onction, le pain, c'est l'onction de l'intimité. D'accord ? Et puis le vin nouveau, c'est l'onction de l'esprit pour l'Église. C'est l'onction qui enivre l'Église d'amour pour son Seigneur, qui la rend ivre de joie, de passion et d'enthousiasme pour Dieu. C'est l'onction qui brise le joug de la religiosité, du légalisme, de l'introspection. C'est le terme. Vous savez qu'il y a plusieurs mots pour dire Église hein, dans la Bible. Il y en a plusieurs. On connaît surtout le mot Ecclesia, hein, qui a donné le mot Église, qui veut dire assemblée. Mais il y en a un qu'on ne cite pas souvent. On le cite de temps en temps dans l'Église chez nous. C'est le mot Panégouris, qui est dans Hébreux 12. D'ailleurs, dans certaines traductions, il n'est même pas traduit. Panégouris, c'est une réunion de fête, c'est une assemblée de fête. Une Église, c'est une réunion de fête. Donc, le vin nouveau, c'est l'onction de la fête. D'accord ? Et puis l'huile. C'est le symbole et l'onction, par exemple l'onction d'huile pour les guérisons, etc. C'est l'onction pour l'évangélisation pour le monde, pour qu'il soit guéri, sauvé, soigné. C'est l'onction pour les miracles, les signes et les prodiges, etc. D'accord ? C'est l'onction de la puissance. Alors, dans les églises, il nous faut l'intimité avec Dieu. Des églises, en fait, il faut que la puissance coule sur le monde. Le monde va venir dans des églises, en fait. Le monde va venir dans des églises, en fait. D'accord ? Parfois, on veut la puissance, mais on ne veut pas la fête. Puis, il y a une autre chose, c'est qu'on veut bien le vin nouveau, on veut bien des miracles. Encore, il ne faut pas trop que ça bouscule, quand même. Hein. Voilà, on en veut bien, on veut bien, on veut bien du vin nouveau, mais surtout, il ne faut pas toucher aux outres. Du vin nouveau, mais dans de vieilles outres. Ben, c'est pour ça que le réveil s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il faut des outres nouvelles. C'est quoi l'outre ? C'est les églises. Ce sont les églises locales. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire des églises avec des normes bibliques, des façons de faire bibliques, des façons de faire qui reflètent le cœur de Dieu. Comme on l'a dit, des équipes de ministère à la tête de l'église, des églises qui fonctionnent selon le cœur de Dieu. D'accord ? Hein ? Dieu lui-même, il est trinitaire. Lui-même, il fonctionne en équipe. D'accord ? Voilà. Ben une église aussi, c'est comme ça. À la tête d'une église, une direction, etc. Je répète, il n'y a pas dans toute la Bible une église avec un pasteur ou un pasteur principal. Hein ? Aujourd'hui, quand vous discutez avec les pasteurs, tout le monde vous dit maintenant, parce que quand même, tout le monde vous dit on travaille en équipe. Oui, mais en équipe, mais avec une personne à la tête. Ben ce n'est pas biblique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et Dieu veut mettre du vin nouveau dans de nouvelles outres. Et l'histoire de l'église, c'est, il faut le dire, très souvent, pas toujours, mais très souvent, on a mis du vin nouveau, mais dans de vieilles outres. Les outres, comme dit Jésus, se sont déchirées, et puis le vin s'est perdu. Ok ? Ça va, vous suivez ? Bon, Smith Wigglesworth, le fameux anglais, avait prophétisé un réveil de l'esprit, un réveil de la parole, et ensuite viendra, à la fin, le réveil de l'esprit avec la parole de Dieu. Ok, je passe rapidement, parce qu'il faut passer rapidement. Je dirais simplement ceci, c'est qu'il y a toujours eu, comme je vous l'ai dit, dans l'histoire de l'Église, des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc., etc., etc. Toujours, hein. Voilà, toujours. Aujourd'hui, on vit quelque chose de spécial. C'est qu'il y a des prophètes, des apôtres, etc., etc., mais surtout, on enseigne là-dessus. On explique qui ils sont. On explique comment ils doivent fonctionner et comment ils doivent fonctionner en équipe. Le résultat, c'est que ils sont dans les églises aujourd'hui, quand vous parlez d'apôtres ou de prophètes, ça n'étonne plus personne, quoi. Hein. Voilà. On a, par la grâce de Dieu, les 5 ministères dans l'église chez nous, mais on ne fait pas que les avoir, on enseigne là-dessus, on parle là-dessus, et on enseigne pour qu'il y en ait d'autres qui se lèvent, qui se lèvent, qui se lèvent. D'accord. Ok. Je passe rapidement. Bon. Ok. On va dire beaucoup de choses. Ouais. Au cours de l'histoire... Oui, on va lire cette citation de Bill Johnson. « Ce qui prenait des années ou des mois mettra des semaines ou des jours pour se faire. Nous sommes au début d'une saison caractérisée par une croissance accélérée, ça veut dire une formation accélérée, ça veut dire une sanctification accélérée, ça veut dire un sérieux accéléré. Ben oui, hein, voilà. Hein, avant le retour de Jésus, il y aura une communauté de rachetés qui marchera dans cet héritage, une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Comprenez, des autres nouvelles. Ok, ça va, vous suivez? Ok, super. Hein, ok, donc je passe rapidement, vous pourrez lire ça chez vous, je vous l'ai dit. Le vin nouveau dans de vieilles, dans des outres neuves. Excusez-moi, il y a des fautes d'orthographe outre. Là. Ok. Donc les vraies normes de l'Église de Jésus-Christ, la vraie vie d'Église, c'est le vin nouveau qui coule à flot dans des outres neuves, dans des assemblées implantées sur les principes de vie et les normes du Nouveau Testament. Ok. La glorieuse histoire de l'Église a pour but de nous montrer les infinies variétés dans les façons de faire de Dieu, de nous révéler sa personne, son caractère, sa sagesse, sa puissance, son amour, sa joie, son amour, son infinitude, et de nous amener émerveillés et époustouflés par lui à lui ressembler de plus en plus de gloire en gloire. En tant que personne et en tant que corps. Dieu veut une belle épouse. Il ne veut pas une épouse à moitié trafiquée par des chirurgiens humains qui l'ont à moitié démonté, raccommodé, etc. et puis qui l'ont dit, voilà, ça c'est l'épouse. Hein? Non. Dieu veut une belle épouse. Ok. Une outre neuve. Ok. Je passe rapidement. Alors là, donc, une vue générale sur la glorieuse histoire de l'Église. Dans cette histoire de l'Église qu'on vous donnera avec Dominique, on va parler de l'histoire de l'Église, l'évangélisation, les conversions, de l'expansion de l'Église, l'histoire des missions, des implantations de l'Église, l'histoire des réveils, l'histoire des principales persécutions, ben oui aussi quand même, hein, voilà quoi. Hein. L'histoire du baptême d'eau, ben oui bien sûr. L'histoire des principales déviations et idolâtries de la chrétienté, ben oui. Beaucoup de gens disent ben oui je suis chrétien, mais parfois t'es pas chrétien, t'es plutôt crétin. Hein. Voilà bon. Alors l'histoire des miracles, prodiges et manifestations polymulticolores du Saint-Esprit. Vous corrigez, hein, vous mettez bien polymulticolore. Hein. Voilà, c'est un mot que j'ai inventé, mais c'est la traduction du mot grec. Poloupoikilos de Ephésiens 3.10. Hein. L'histoire des ministères, des équipes de ministères, et l'histoire des structures de l'Église et des Églises locales. Alors, quand on étudie l'histoire de l'Église, on partage l'histoire de l'Église en 5 grandes époques. Hein. Ce qu'on appelle l'Église primitive, des apôtres en environ l'an 500, c'est pas exactement l'an 500, je sais, vous allez me dire, oh là là, c'est la fin de l'Empire romain, d'accord hein. Donc 400 et quelques, bon, environ l'an 500. Ensuite, c'est le Moyen-Âge, de l'an 500 à l'an 1500, environ, hein, d'accord. Ensuite, les temps de la Réforme, des 16e, les temps de la Réforme, c'est-à-dire l'époque de la Réforme, mais aussi d'autres réveils, je vous l'ai dit, comme les réveils anabaptistes, etc., des 16e et 17e siècles. Ensuite, les réveils 18e et 19e siècles, formidable temps de réveil, avec notamment quelqu'un hors norme, Maria Woodruff-Hatter, ok. Il n'y a pas de bon livre hein, écrit en français sur Maria Woodruff-Hatter. Il y a un résumé de résumé de résumé, je m'excuse, je ne l'ai pas amené, qui est épais comme ça, vous voyez. Vous suivez entre mes doigts. Vous avez une bonne vue hein. La vraie autobiographie de Maria Woodruff-Hatter, c'est 2 bouquins comme ça. Hein, ok. Bon. Et puis, les temps modernes. Ok, voilà. Alors, je passe rapidement là-dessus. Sur Apocalypse 2 et 3. Vous avez un survol prophétique de l'histoire de l'Église. Vous savez, les églises de l'Apocalypse. Alors tout d'abord, historiquement, chaque église mentionnée a vraiment existé. Il y avait une église à Éphèse, il y a une église à Smyrne, il y a une église à Pergame. Elles ont existé. Ensuite, prophétiquement, ces chapitres sont un époustouflant résumé de l'histoire de l'Église. C'est un résumé de l'histoire de l'Église, vraiment. Par exemple, l'église de Sardes, c'est le mouvement protestant hein, qui arrive au moment de la Réforme. D'accord? Voilà, voilà. Ok. Et puis, c'est instructif parce que chacune de ces églises, chaque état spirituel décrit, en fait, existe aujourd'hui. Une église évangélique aujourd'hui peut avoir connu, peut-être comme l'église d'Éphèse, avoir connu des choses formidables, et puis avoir connu après un temps où elle a abandonné son premier amour. Hein? D'accord. Ben oui, voilà. Alors, rapidement. L'église d'Éphèse, c'est l'église primitive. L'église de Smyrne, c'est l'église persécutée, durant environ 50 ans. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit 10 périodes, etc. Vous prenez 10 empereurs romains, parce que tous les empereurs romains n'ont pas persécuté l'Église. Hein. Vespasien n'a pas persécuté, voilà. Mais par contre, les empereurs qui ont vraiment persécuté, je vous les ai mis les 10. Il y a les 10, hein. Tout historien peut vous dire ça, voilà. Néron, Domitien, Trajan, Adrien, Marc Aurèle, Septime Sévère, Maxime, Valérien, Décius, Dioclétien. Voilà, on les sait, on les connaît, les périodes de persécution, voilà. L'Église de Pergame, c'est à partir de l'édit de Milan avec Constantin, à partir de 313, où l'Église se mélange avec le monde. C'est le début du catholicisme, en fait. C'est l'empereur Constantin qui veut absolument que l'Église ressemble à l'Empire romain. Lui-même se présente comme évêque à Rome et lui-même nomme des évêques et envoie les soldats romains avec l'épée pour faire couler le sang, pour massacrer des Donatiens, qui étaient des chrétiens évangéliques, qui suivaient un serviteur de Dieu, qu'ils appelaient Donat, tout simplement, Donatus. Mais c'est des évangéliques qui ne voulaient pas rentrer dans le système pyramidal qui deviendra ce qu'on sait, l'Église catholique. Okay. L'Église de Sardes, c'est l'Église protestante. L'Église de Philadelphie, c'est les réveils religieux des 18e et 19e siècles. Okay. Et puis l'Église de Laodicée, ben c'est l'Église d'aujourd'hui, on le sait. Elle se caractérise de deux façons. C'est l'Église la plus pauvre, la plus misérable, la plus aveugle, la plus orgueilleuse. C'est l'Église d'aujourd'hui. Vous avez le droit de dire amen, là. Hein, hein, ok. Mais aussi, c'est l'Église qui, à qui est fait les plus grandes promesses, à condition qu'elle se repente. Hein. Jésus se présente comme le centre de l'Église. Il y a une promesse de rentrer dans une intimité, une communion merveilleuse avec Dieu, puis recevoir une puissance, une onction. Voilà. Hein, voilà. Ok. Aujourd'hui, tout va très vite. Il y a encore beaucoup de choses à vivre. Rick Joyner dit ceci, l'ampleur des événements à venir n'aura absolument aucune commune mesure avec ce qui a pu arriver par le passé. Voilà. Hein. Ce que Dieu a prévu pour l'Église d'aujourd'hui est plus grand, dit Bill Johnson, que notre capacité d'imaginer et de prier. Wow. Hein. Voilà. Ok. Alors, dans Agée, il est dit que la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. Ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur, mais ça veut dire qu'il y aura une présence de Dieu supérieure. Hein. La gloire de Dieu déversée sur l'Église finitive sera plus grande que celle répandue sur l'Église primitive. Il faut dire que tout va très vite aujourd'hui. Il y a des choses... voilà, Jésus n'a pas prêché sur Internet. Hein? Il prêchait à Capernaum, il prêchait à Jérusalem, mais voilà, les gens de Capernaum l'entendaient. D'accord? Mais voilà, aujourd'hui, vous prêchez sur Internet, il y a des millions de personnes qui vous écoutent. Tout va très vite aujourd'hui. Tout va très vite aussi pour les bêtises, les fausses doctrines, les imbécilités. Y compris les imbécilités évangéliques, se répandent plus vite. Mais les bonnes choses se répandent plus vite. Faites le tri. OK? OK. Et toujours l'histoire des Outre-Neuve. Regardez ce que dit Rick Joyner. Un grand mouvement va naître. On y est déjà, on est dedans. Hein? Mouvement dont le but sera de ramener dans l'Église, écoutez bien, la simplicité biblique concernant la vie, la structure et l'administration de l'Église. Oui, le réveil, le vin nouveau dans des Outre-Neuve. Vous avez compris ça? Ok, ok, ok. Ok. Donc la vie chrétienne, oui, alors, Rigionneur toujours qui dit, l'Église n'est pas son propre modèle, c'est Jésus qui est le modèle de l'Église. C'est très important ça. Parce que quand on parle de structure de l'Église, d'Outre-Neuve, oui d'accord, ok, mais... ce n'est pas doctrinalement avoir une vision juste de l'Église, c'est aussi ça. Mais c'est surtout ressembler à la personne même du Seigneur. C'est ça qui est important. Dieu lui-même est trinitaire. C'est un travail en équipe. On reflète dans nos façons de faire, nos façons de diriger, etc., etc. On reflète ce qu'est la personne même de Dieu. C'est ça l'important. Hein ? La vie chrétienne ne se résume pas à une formule, c'est une relation avec Christ. C'est en contemplant sa gloire que nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire. Ok, très bien. Alors, on va commencer très rapidement. Alors, il faudrait distribuer ça. Allez, il y en a plusieurs, 3 ou 4 qui peuvent s'y mettre. Alors, on va commencer. Allez. Voilà, il me faut des gens beaux, intelligents et rapides. Ça va ? Allez, hop là, on y est. Formidable. Donc, un petit mot sur l'Église primitive. Ils sont pressés, hein. Ils sont pressés. Hein. Allez. Ok. Alors, tout d'abord, donc vous avez tout sur l'écran en attendant que les papiers arrivent. Une expansion extraordinaire de l'Évangile. Il est dit au sujet des apôtres, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Alors, on va voir, oui, bien sûr. Hein ? Alors, Dieu va préparer une formidable expansion de l'Évangile par la mise en place de situations sociales, politiques et religieuses extrêmement favorables. Tout d'abord, il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana, la paix romaine. C'est-à-dire que l'Empire romain s'était étendu sur une partie, hein, une partie de la terre, pas sur tout, bien sûr, hein, mais ça permettait que l'écriture, la culture, l'éducation, le développement de langues de base, comme le grec et le latin, les routes étaient sécurisées. Les brigands sur les routes au temps de l'Empire romain, normalement, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait beaucoup moins qu'au Moyen-Âge. Voilà. Il faut savoir qu'au début du christianisme, on estime qu'il y a environ 80 000 voies romaines, kilomètres de voies romaines. Et vers l'apogée de l'Empire, allez, on va dire l'histoire de Constantin, il y a à peu près 150 000 kilomètres de voies romaines. Ça permettait aux gens de voyager facilement. Vous allez me dire, ben pourquoi il nous dit ça, le vieux ? Parce que tout simplement, ça permettait aux gens de circuler. On répandait l'Évangile. Moi, il y a quelqu'un que je connais bien, et, hein, il a quelques 100 mètres de chez lui environ. Il a des dalles. Vous savez, c'est une voie romaine qui passait là. Et il me dit, tu vois, là, l'apôtre Paul, il est passé là. Bon, voilà. Alors, ensuite. Il y a des phénomènes sociaux, politiques et religieux qui ont eu un impact important. Par exemple, la décadence morale des empereurs. Néron qui se marie 2 fois avec des homosexuels dans des cérémonies fastueuses. Il fatiguait tout le monde, Néron. Hein. 31 ans, il va se faire suicider. On en parlera. Bon. Les complots incessants, les massacres, les nombreux infanticides de l'Empire romain, c'était ça, hein. Voilà. Les jeux sanglants dans les cirques, on pouvait tuer en une seule journée plus de 10 000 personnes qui mouraient dans des jeux du cirque. Une seule journée. C'était incroyable, quoi. Ça fatiguait les gens. Les divinités officielles et les philosophes avaient lassé les cœurs. C'est l'historien latin Tacite qui dit ceci. Leur sanctuaire était vide. Leur mystère dépourvu de sens. C'est-à-dire que l'Évangile arrive à un moment où les gens sont dégoûtés de l'idolâtrie, voilà. Et puis, il y a les Juifs de la diaspora. Les Juifs avaient répandu l'Évangile. D'ailleurs, on sait que, d'abord, l'apôtre Paul, Pierre aussi, très souvent le fera, vont d'abord aller dans des synagogues. Souvent, ils traversent des villes où ils n'évangélisent pas, et ils vont à la ville suivante, où il y a une synagogue et on commence à prêcher dans les synagogues. Il faut savoir que les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Hein ? Oui, vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Voilà, ok. Alors, c'est Origène qui dit ceci, le célèbre théologien de l'Église primitive, qui dit ceci, « Dieu préparait les nations à recevoir son enseignement en les soumettant toutes au seul empereur de Rome et en empêchant que l'isolement des nations dû à la pluralité des royautés ne rendit plus difficile aux apôtres l'exécution de l'ordre du Christ. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Il est manifeste que Jésus est né sous le règne d'Auguste, qui avait, pour ainsi dire, réduit à une masse uniforme, grâce à sa souveraineté unique, la plupart des hommes de la terre. Ok. Donc voilà, je vous ai mis d'autres citations aussi. Et les apôtres vont donc arriver à un moment spécial de l'histoire de l'humanité. Ils vont sillonner inlassablement le monde antique pour annoncer l'évangile. Ils vont déferler sur un monde assoiffé, désemparé, pour répandre la parole de Dieu dans la joie et la puissance du Saint-Esprit avec les miracles, guérisons. Et il faut le dire, beaucoup de résurrections de morts. Hein? Ok, je passe rapidement. Le feu de l'évangile va donc commencer à Jérusalem, où l'église primitive va très vite grandir. La Bible nous dit, par exemple, dans Actes 4:4, il y avait 5000 hommes, 5000 hommes, pas 5000 êtres humains, pas des anthropos, mais des anères, des hommes. Or, il y avait aussi beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. On estime que très rapidement, dans l'église primitive, quand il est dit ça, il y avait au moins 20 000 personnes. Au moins 20 000 personnes. Puis ensuite, il est dit, et puis le nombre des disciples va se multiplier, et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. C'est-à-dire, on va dépasser énormément les 20 000 dans l'église de Jérusalem. D'accord ? C'est ça l'église primitive. Hein ? Donc, ok. Alors, quelques mots sur les apôtres. Alors là, ouais, ok. Quelques mots sur les apôtres. Ok. Alors, vous pourrez lire ça chez vous, d'accord ? J'ai voulu vous faire un cadeau. Il n'existe pas en français de livre sur les quelques pages que je vous mets là. Hein, voilà. C'est un résumé de résumé de résumé de ce qu'on faisait avec Lamandier. Mais vous allez voir des choses de qualité. On va juste faire quelques... On va survoler. Hein, voilà, puisque... Mais vous pourrez relire ça chez vous. Vous verrez, c'est très bien. Hein. Alors, le feu de l'esprit va se répandre dans la Judée, la Galilée, la Samarie, dans toute la Palestine, puis dans tout le bassin méditerranéen et bien au-delà. À l'intérieur de la Gaule, parmi les tribus germaniques, en Angleterre, par exemple avec l'apôtre Pierre, avec Simon le Zélote, eh oui, bien sûr, hein, en Russie, notamment avec l'apôtre André, en Arménie, notamment avec les apôtres Thaddée, Philippe, Barthélemy, Simon le Zélote aussi, et même Matthias, tiens, et même un petit peu Thomas, tiens, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, par exemple en Mauritanie, avec Simon le Zélote, à l'intérieur de l'Afrique, comme en Éthiopie, avec l'apôtre Matthieu qui va aller en Éthiopie. Puis ce feu de l'esprit va parcourir l'Asie, la Perse, la Mésopotamie, l'Empire Parthe, c'est un immense empire. D'ailleurs, on parlait de l'empire indo-parthe, hein, ou partho-indien, voilà. Hein. L'apôtre Barthélemy qui va aller jusqu'aux Indes et l'apôtre Thomas qui va aller jusqu'aux Indes. Il aura même poussé le bout des pieds jusqu'en Chine. Alors là, on est au-delà de l'Empire romain. D'accord ? Ça va, vous suivez ? Hein, voilà. Alors, les nombreux écrivains de l'Église primitive rendent témoignage, bien sûr, de l'expansion de l'Évangile. Hein. Je vous ai mis quelques images, mais bon, voilà. Hein. Clément de Rome, donc précieux collaborateur de l'apôtre Paul, rend témoignage du travail des apôtres. Et il a écrit une épître aux Corinthiens, puisque les Corinthiens, ces féfiers Corinthiens, étaient toujours en train de se battre. Donc, Clément s'est occupé d'eux, comme Paul s'était occupé d'eux. Il faisait que de se battre entre eux. Hein. Voilà. Hein, vous savez, je suis de Paul, non, moi, je suis... voilà. Il commençait les dénominations, les disputes, avant que ça arrive. Hein, voilà. Alors, il dit ceci, les apôtres ont reçu pour nous, du Seigneur Jésus, la bonne nouvelle. Pourvus d'instructions, remplis de certitude par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, affermis par la parole de Dieu, ils partirent avec l'assurance de l'Esprit Saint, annoncer que le royaume de Dieu était proche. Ils prêchaient dans les campagnes et dans les villes, ils y établissaient leurs prémices, et il les éprouvait avec l'aide de l'Esprit pour en faire les surveillants, les évêques, les anciens et les diacres des futurs fidèles. Ce n'était pas là une nouveauté. Depuis longtemps, l'Écriture parlait de surveillants et de diacres, disant « J'établirai leurs surveillants dans la justice et leurs diacres dans la foi ». Alors là, je vous mets quand même une petite note en disant cette dernière phrase. Clément de Rome cite Ésaïe 77 en l'adaptant au Nouveau Testament. Parce qu'en fait, c'est... C'est intéressant de voir, hein, comme un, voilà. Ok. Alors, oui, Eusèbe de Césarée, ce fameux gars qui a été en prison et qui a été libéré par l'empereur Constantin, hein, qui a écrit donc l'histoire de l'Église. On est autour de l'an 330. Il écrit une histoire de l'Église, mais il avait bien sûr tous les documents que nous, on n'a plus forcément aujourd'hui, parce que ça, beaucoup de choses ont été détruites, hein. Mais il a eu la bonne idée de recopier, de recopier, de recopier. Et puis ensuite, c'est Irénée qui a eu la bonne idée de recopier, recopier, recopier l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Il dit ceci. « Ce fut ainsi, grâce sans doute à une puissance et une assistance céleste, que la doctrine du salut, tel un rayon de soleil, éclaira soudainement toute la terre. Aussitôt, suivant les écritures divines, comme l'avaient prédit les saintes écritures, sur toute la terre retentit la voix de ces divins évangélistes et apôtres, et juxte aux extrémités de l'univers leurs paroles. Et vraiment, dans chaque ville, dans chaque bourg, comme dans une aire pleine, se constituaient en masse des églises fortes de milliers d'hommes et remplies de fidèles. » Quand il dit de milliers d'hommes, il n'exagère pas. Cette fameuse église de fiefés de Corinthiens, il y a un moment, on estime qu'ils auraient été peut-être jusqu'à 25 000. Ça faisait comme une bonne petite église, vous êtes d'accord? Hein, ouais, vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main, je vous dis, puis on priera pour vous. Hein. Voilà. Bon. OK. Ceux-ci, qui d'après la tradition ancestrale de l'antique erreur avaient été retenus dans la maladie d'une superstition idolâtre, ont été par la puissance du Christ, grâce à l'enseignement, en même temps qu'au miracle de ses disciples, délivrés en toutes sortes de maîtres cruels qui ont trouvé la libération de très lourdes chaînes, etc., etc. Hein? OK. Ah oui, Eusèbe de Césarée continue en disant ceci. Quant aux saints apôtres et disciples de notre Sauveur, ils étaient répandus sur toute la terre habitée. Thomas, comme cela est contenu dans la tradition, reçut en partage le pays des Parthes. Comprenez le pays des Parthes et l'Inde. Hein, je vous montrerai une carte. Les Indes, pardon. André et la Scythie. C'est intéressant d'ailleurs de voir que André va évangéliser, notamment en Russie, il va évangéliser ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, il va prophétiser sur la ville de Kiev, qui n'existait pas. Non, mais c'est extraordinaire ça. Hein. Voilà. Et puis la Scythie. Et c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, parle de Scythe. D'accord ? Il était au courant de ce que faisait André. Hein ? Voilà. OK. Jean, l'Asie, quand on dit l'Asie, c'est l'Asie, c'est la période d'Éphèse, hein, la région d'Éphèse à l'époque. Hein, c'est pas l'Asie, la Chine, etc. Hein. Bon. Il vécut et mourut à Éphèse, donc Jean. Pierre paraît avoir prêché aux Juifs issus de la dispersion dans le Pont, la Galatie, la Bithynie, la Cappadoce et l'Asie. Finalement, il vint à Rome et fut crucifié à la tête en bas après avoir lui-même demandé de souffrir ainsi, etc. Je passe rapidement. D'accord ? OK. Donc, les apôtres du Seigneur vont donc sillonner le mode antique pour annoncer l'évangile. Ils vont tous connaître de terribles persécutions. Ils vont tous mourir martyrs. Sauf l'apôtre Jean, qui après avoir souffert de terribles persécutions, il va être plongé notamment dans une énorme marmite d'huile bouillante. Il va en ressortir indemne. C'est une tradition dont on est sûr, ça, mais c'est pas dans la Bible, hein, c'est, voilà, hein, sous l'empereur Domitien. Puis ensuite, il va être exilé dans l'île de Patmos où il écrira l'Apocalypse. L'apôtre Paul va mourir tranquillement, en bonne forme, vers l'an 101, âgé d'environ 90 ans, 98 ans. OK? Ce qui est honnête. Hein? Voilà. Hein? Ces 12 apôtres du Christ étaient tous des gens humbles et simples, mais ils furent tous des personnages extraordinaires, énormément courageux, des gens splendides, remplis de foi, d'amour et de joie, des gens au caractère bien trempé, qui ne pensaient pas à eux-mêmes, mais qui donnèrent leur vie. Ils aimèrent leur Sauveur d'un amour tellement puissant et extravagant. Ils répandirent la parole de Dieu, bouillonnant de joie, et prêchèrent l'Évangile avec un zèle extraordinaire, avec une puissance stupéfiante. Voilà, on va avec des miracles, des guérisons, des visites angéliques, etc., etc. Donc, je passe rapidement. Ils ont été jusqu'aux extrémités de la terre habitée, nous dit l'Épître aux Romains. Je passe rapidement. Ils implantèrent des quantités d'églises, formèrent des multitudes de serviteurs de Dieu, établirent des multitudes de ministères, d'anciens, d'évêques, de présidents, de dirigeants, appelez-les comme vous voulez. Vraiment, ces apôtres du Christ bouleversèrent la terre habitée. Ils changèrent la face du monde. Ils bousculèrent l'histoire de l'humanité sans jamais utiliser la violence, sans jamais utiliser une épée. Une petite différence avec l'islam quand même. Je dis ça comme ça. Hein. Voilà. OK ? OK. Est-ce que on peut distribuer ça ? Une équipe de gens bouillants, intelligents, beaux de préférence. Ça va. OK. Allez, on prend ça. Alors, nous savons, d'après la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, et par d'autres écrits d'ailleurs, que les 12 apôtres étaient tous mariés, bien sûr, et que leur épouse les accompagnait dans leur vaste pérégrination à travers le monde antique, et qu'elle les accompagnait généralement dans leur ministère avec les enfants. Il y a des textes, par exemple, qui nous parlent des enfants de l'apôtre Pierre, par exemple, notamment d'un de ses fils qui a aussi abondamment prêché l'évangile. Clément d'Alexandrie n'hésite pas à parler des apôtres du Christ et de leur famille et des enfants. Voilà, ok. Tous ces apôtres vont bien sûr subir d'énormes persécutions et vont tous mourir martyrs, sauf l'apôtre Jean. Allez, certainement que celui qui a été le plus, qui a souffert au niveau du martyr, qui a souffert les choses les plus innommables, c'est le fameux Barthélemy. Mais il ne se sert jamais d'aimer Dieu et d'aimer les hommes. Ok ? Nous sommes aujourd'hui les héritiers de ces gens qui ont magnifiquement illuminé le monde. C'est pas pour rien que les Arméniens vont surnommer Thaddée et Barthélemy les illuminateurs de l'Arménie. Ok. Alors, quelques mots. Donc, vous l'avez, cette fâche-là ? Oui ? Ok. Bon. Alors, il est très important de préciser certaines choses. Donc, lorsque nous voulons parler de la vie des apôtres, on va parler surtout de ce qui est après le Nouveau Testament. Tout n'est pas raconté dans le Nouveau Testament. D'accord ? Hein ? Et là, il faut savoir que il y a des écrits hors la Bible, mais qui sont toutes des écrits historiques, mais qui sont des écrits tout à fait sérieux, tout à fait crédibles. Il y a des tas de légendes complètement stupides. Il y a des grosses exagérations. Ça, on n'en tient pas compte. Parfois, il y a des choses dont on pense que c'est vrai, mais on n'en est pas absolument certain. Alors ça, je vous le note. D'accord ? Hein ? Mais dans ce qu'on va faire, on sait qu'il y a des choses dont on est sûr. Que Pierre a été crucifié la tête en bas, ça on le sait. D'accord ? Que Barthélemy a été écorché vif, ça on le sait. Voilà. Bon. Alors, rapidement, Jacques. Donc, il y en a beaucoup de Jacques. Lui, on va l'appeler Jacques le Majeur. C'est le frère de l'apôtre Jean. Celui qui voulait faire descendre le feu du ciel, vous savez. Hein, Boanerges. Voilà. Hein. Alors, je vous mets un petit peu aussi le sens du mot, don de l'Éternel, hein, fils de Zébédée, don de l'Éternel, et puis Jacques, Jacques, ça vient de Jacobos, Yaakov, en hébreu, qui veut dire celui qui supplante, celui qui prend le talon, voilà, c'est, en fait, il s'appelait pas Jacques, hein, il s'appelait Jacob, hein, voilà, ben, c'est, voilà, quoi, hein, voilà. Alors, 44, le roi Agrippa Ier, un roi orgueilleux, ambitieux, manipulateur et sanguinaire, qui avait été nommé par Caligula, un empereur fou, d'ailleurs il se prenait pour un cheval, il est nissé comme un cheval, homosexuel bien sûr, hein. Hérode va donc faire arrêter et torturer plusieurs membres de l'Église à Jérusalem. Il va faire arrêter l'apôtre Jacques et va le faire décapiter par le glaive. D'accord. Souvent, quand on montre des images des apôtres, on les montre avec ce qui a été leur martyr. Par exemple, on va montrer l'apôtre Jacques avec un glaive. Vous voyez ? Voilà. Ok. Hérode va donc faire exécuter l'apôtre Jacques, mais on ne touche pas à un apôtre du Christ. On sait que quelques courts temps plus tard, alors qu'il est en train d'exhorter la foule, la Bible nous dit... Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu et étant rongé par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. D'accord ? L'histoire d'ailleurs nous confirme ça. Il est tombé comme ça devant les gens alors qu'il exhortait la foule à l'adorer. Hein ? Et on l'a emmené à Jérusalem, il était rongé par les vers, il empoisonnait tellement qu'on ne pouvait plus rentrer dans la pièce où il était. Il est mort d'atroces souffrances rongé par les vers. Ok ? Bon. Okay. Voilà, donc l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques. Alors, une chose sur l'apôtre Jacques, rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de légendes sur l'apôtre Jacques, beaucoup de légendes, notamment une légende où il aurait été en Espagne, alors qu'il n'y a jamais été. Il aurait été à Saragosse et à Compostelle. Le fameux, vous savez, les pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle, tout ça, c'est complètement faux. Vous pouvez tout enlever ça. C'est complètement inventé, ça. Historiquement, ça tient à rien du tout. C'est des superstitions et des légendes qui se sont ajoutées les unes. Tout ça, c'était pour faire du fric tout le long des pèlerinages, bien sûr. Mais ça n'a rien. Donc, zéro. On est d'accord là-dessus ? Bon, je vous donne quelques précisions. Alors, l'apôtre Pierre, natif de Galilée, il a un fort accent galiléen. Il est né dans la ville de Bethsaïda. Il vivait à Capernaum. Il faut voir que la ville de Bethsaïda, c'était une toute petite ville, de quelques centaines d'habitants. Vous pouvez venir d'un petit village, et de ce petit village, il peut sortir plusieurs apôtres et plusieurs prophètes. D'accord ? Ok. Donc, il va vivre à Capernaum, au bord du lac de Galilée. C'est André, son frère, qui l'amène à Jésus. De son vrai nom, il s'appelle Shimon, en hébreu, celui qui écoute, fils de Jonas, fils de la colombe. Voilà. Et puis Dieu lui dit, tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui est interprété Pierre. Céphas en araméen, Petros en grec, et donc qui va devenir le surnom de Pierre, Petros. Quand il est dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai. Jésus lui dit, sur cette confession de foi, puisqu'il vient de dire, tu es le fils de Dieu. Parce que quand il dit « tu es Pierre » et sur cette pierre, il utilise deux mots différents en grec. Ben oui, comme quoi nos traductions, il utilise deux mots différents. Donc c'est pas sur cette pierre, c'est sur cette pierre. Donc l'Église catholique a fait que Pierre était... Non. Okay. L'apôtre Pierre, que l'histoire appela le prince des apôtres, va répandre la parole de Dieu à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Palestine, en Galatie, le centre de la Turquie, Galatie, parce qu'il y avait des Gaulois qui étaient là, qui avaient émigré, en Bithynie, la région du Pont. La région du Pont, c'est ce qu'on appelle en face d'Istanbul aujourd'hui, de l'autre côté, voilà. En Cappadoce, la Turquie actuelle, voilà. D'ailleurs, Pierre dédicace sa première épître à plusieurs de ces régions. Pierre va répandre l'évangile certainement en Babylone, en Mésopotamie, peut-être dans les années 44 à 49, la Mésopotamie étant à l'époque un des plus puissants centres du monde juif. Puis il va répandre la parole en Italie, à Rome, et peut-être en Gaule, et peut-être en Bretagne. Quand on dit Bretagne, ça veut dire en Angleterre. D'accord ? Voilà. Nous savons par l'Épître aux Galates que Paul va aller prêcher à Antioche, Antioche sur l'Oronte, la fameuse ville d'Antioche où il y avait une grande assemblée. Antioche, qui était une grande ville à l'époque, plus de 150 000 habitants, peut-être la quatrième ville de l'Empire romain. Voilà. Cette église d'Antioche fut rapidement, après sa fondation, le formidable travail de Barnabas et de Saul de Tarse. Elle fut le véritable centre du christianisme, parce que quand Jérusalem est pris, quand Jérusalem est détruit, le centre du christianisme, ça va être Antioche. D'accord. Puis après, ça va changer. Avec les persécutions, tout ça, en Occident, tout ça, rapidement, le centre du christianisme va se déplacer. Je vous le donne en 1000, je vous le donne en 100, le centre du christianisme en plein Moyen-Âge, avec ce formidable réveil des Nestoriens, ça va être Bagdad et Kaboul. Les grands centres du christianisme en plein Moyen-Âge, ce sera Bagdad et Kaboul, avec des églises évangéliques partout. Plein d'églises évangéliques en Iran, Irak actuel, et en Afghanistan. Comme le monde y change, n'est-ce pas ? Mais on vous en reparlera à d'autres moments. Ok. Alors, je vais aller assez rapidement. Pierre va donc quitter Jérusalem, il va se rendre à Antioche, et puis... alors, on sait ça parce que il y a beaucoup de gens qui confirment cela, y compris des gens qui ont écrit des textes comme quoi Pierre était là dans l'Église et qui ont été des anciens de l'Église d'Antioche, comme par exemple Théophilus, etc. etc. Il va prêcher à Corinthe. On sait d'ailleurs, l'apôtre Paul en parle. Il va prêcher dans la ville de Corinthe où il y avait à peu près 100 000 personnes, on verra, et une importante église va naître. D'ailleurs, Denis de Corinthe dit ceci en parlant de Paul et de Pierre, car tous deux ont planté dans notre Corinthe et nous ont semblablement instruits. Et semblablement, après avoir enseigné ensemble en Italie, ils ont rendu témoignage dans le même temps. Rendu témoignage, ça veut dire mourir martyr dans le vocabulaire de l'Église primitive. OK ? Alors, oui, alors je regarde. On va passer rapidement. Hein. Pierre va donc aller à Rome sous l'apôtre Claude, sous l'empereur Claude, qui ne va pas. Claude ne persécute pas les chrétiens. Hein, il est. Voilà. À ce moment-là, il y a à peu près 700 000 habitants dans la ville de Rome, et on estime qu'il y a entre 40 et 50 000 juifs, ce qui va être un formidable terrain d'évangélisation pour l'apôtre Pierre. OK ? Voilà. Et puis, je passe rapidement. Hein. On sait que depuis Rome, il va former des gens pour les lancer à travers l'Europe, notamment, je vous mets Eucarius, Valerius et Maternus, qui vont notamment, il va les envoyer comme ministère apostolique en Allemagne. Et ils vont être les premiers à évangéliser en Allemagne, notamment à Trèves, où ils vont démarrer des églises à Trèves et à Cologne. D'accord ? On signale l'apôtre Pierre, notamment à Chartres, en France, et puis en Angleterre, où il aurait évangélisé dans des villes connues aujourd'hui sous les noms de Winchester et de Westminster. Ces traditions sont un peu discutées, mais on pense qu'il a été jusqu'en Bretagne. D'ailleurs, il y a des textes bien connus d'Eusèbe de Césarée, les apôtres allèrent au-delà de l'océan jusqu'aux îles appelées les îles britanniques. Voilà. Hein. Les extrémités de l'Espagne, les parties variées de la Gaule, les régions de la Bretagne, comprenez l'Angleterre, qui n'avaient jamais été pénétrées par les armées romaines, ont reçu la religion de Christ. Donc il y a des apôtres qui sont allés. On pense que les apôtres qui sont allés, c'est Pierre et Simon le Zélote. D'accord ? Voilà. Je passe rapidement. Encore Tertullien qui dit ceci. Il y a en Angleterre des régions où les légions romaines n'ont pas pénétré, mais qui sont sous la loi du Christ. Voilà. OK ? Je passe rapidement. Rome. À Rome, donc, l'apôtre Pierre qui va faire un gros travail. Il va être hébergé notamment chez un certain Paron qui pouvait accueillir dans sa maison, notamment dans son jardin, environ 500 personnes. Il faisait un vrai travail de formation. Pierre va prêcher à Rome sous l'empereur Claude. Hein, puis il prêchera sous le règne de l'empereur Lucius Domitius Aenorbabus Nero, que l'on connaît sous le surnom de Néron. Okay, voilà. À partir de de juillet de l'an 64, vont commencer sous le règne de Néron de sévères persécutions, notamment Néron, vous savez, qui avait mis le feu à Rome, hein, voilà, puis qui a fait accuser les chrétiens, et du coup, eh bien, les chrétiens, cet incendie qui avait duré 6 jours et 6 nuits, et c'est l'écrivain Tacite qui raconte que, voilà, les chrétiens ont été faussement accusés, bien sûr, et qu'une vaste multitude de chrétiens furent arrêtés. Il y avait des milliers de chrétiens à Rome à cette époque-là, hein, voilà. L'apôtre Pierre fut arrêté en l'an 66. Il a été incarcéré dans le désormais célèbre Cacer Tullianum, une sinistre prison qui a changé de nom au Moyen-Âge. On peut aller la visiter aujourd'hui. C'est la prison Mamertine. On la connaît sous le nom prison Mamertine. C'était une prison faite de roches volcaniques taillées. Et en fait, à deux étages, c'était taillé dans le roc. Et puis, la prison du bas, il y avait juste un trou. On passait par la prison du haut, et puis à travers le trou, on jetait le prisonnier, et puis la nourriture. D'accord ? Et puis voilà. Hein ? Et l'apôtre Pierre, donc, aurait été détenu 9 mois. On sait que c'est la prison où aurait été détenu Vercingétorix. Voilà, je dis ça pour... hein, voilà. Il était lié avec des chaînes à une colonne de pierre. Voilà, il était censé enchaîner comme ça, rester debout, dans la possibilité de se coucher. L'histoire, mais ou la légende, ça c'est difficile à dire, prétend que Pierre, véritable serviteur de Dieu, au milieu de toutes ses souffrances, aurait pu amener ses geôliers, Processus et Bertignamus, et soi-disant 77 autres personnes au Seigneur. C'est possible qu'il ait été un temps dans la même prison, Parce que dans cette prison-là, il y a eu aussi l'apôtre Paul. C'est possible qu'ils aient été à court temps ensemble. Voilà. Hein? Ok. Donc, sa femme a été exécutée. Le bienheureux Pierre, voyant sa femme conduite au dernier supplice, éprouva de la joie à cause de son appel et de son retour à la maison, qu'il l'encourageait et la consolait en l'appelant par son nom en disant « Ô toi, souviens-toi du Seigneur ». Pierre était hébreu, il n'avait pas la citoyenneté romaine, il ne va donc pas avoir le privilège d'être décapité comme l'apôtre Paul, mais il a été crucifié. Pierre se déclarant indigne de mourir dans la position, la même position que son Seigneur, va être crucifié, il va demander à être crucifié la tête en bas, et sa demande va être exaucée par des Romains moqueurs et méprisants, et l'apôtre Pierre va être crucifié la tête en bas de ce qu'on appelait le cirque de Néron, c'est aujourd'hui l'endroit où il y a le Vatican. D'accord ? Voilà. Ok ? Il est mort martyr entre les deux bornes, c'est-à-dire au centre du cirque, et environ le 29 juin de l'an 67. C'est possible à un jour près qu'il soit mort martyr le même jour que Paul ou à un jour près. Hein, voilà. Les historiens estiment qu'il aurait été crucifié entre 66 et 70 ans. On pense plutôt proche des 70 ans. Voilà. Ok. Voilà. Je passe rapidement là-dessus. Nous savons que dans ses voyages, Pierre fut souvent accompagné de Marc, qui lui servait parfois de traducteur. Hein, ok. Il y a deux choses qui existent, je passe rapidement, je vous explique ça, mais il y a deux choses qui existent, c'est-à-dire qu'on dit que Marc, qui ensuite est devenu apôtre, aurait écrit l'évangile de Marc sous la dictée de Pierre. D'accord ? On n'y croit pas tellement finalement à ça, on pense qu'il a été complètement inspiré, et que c'est sur la demande des gens, des chrétiens de Rome, où il s'est mis devant Dieu, et puis par révélation, il aurait reçu quelque chose de complètement inspiré, qu'est l'évangile de Marc, qui d'ailleurs raconte certaines choses que d'autres... Il est très simple, l'évangile de Marc, mais il raconte des choses que les autres évangiles ne racontent pas. Il n'y a que Pierre qui pouvait savoir ça. C'est intéressant de savoir. Ok. Allez, rapidement, l'apôtre André. Alors, l'apôtre André, on l'appelle souvent le protosiétos, c'est-à-dire en grec, le premier appelé, parce que c'est lui qui vient le premier à Jésus, hein, puis qui amène après les autres, d'accord ? Voilà, alors, je vais aller très rapidement, les écrits de l'Église primitive et les historiens modernes sont tous d'accord pour reconnaître que l'apôtre André, au cours de long voyage, prêcha abondamment l'Évangile tout autour des côtes de la mer Noire, en Bithynie, en Cilicie, hein, dans les monts du Caucase, et puis dans l'embouchure du Danube, dans l'actuelle Roumanie. Alors, je passe rapidement, vous verrez aussi. Il aurait prêché l'évangile en Crimée, il aurait prêché l'évangile en partie dans le vaste royaume des Parthes, voilà. Il aurait prêché l'évangile en Bulgarie, en Turquie, voilà, hein. Donc annonçant l'évangile, baptisant les gens, nommant des anciens, des surveillants, des évêques, comme vous voulez, et affrontant de sévères persécutions. Dans la ville de Sinope, il aurait donc été cruellement maltraité, traîné à terre par les bras et les jambes, il fut frappé à coups de gourdin, il a même été lapidé, il aurait eu les doigts et les dents brisés, mais il supporta tout cela et continua à évangéliser. Je passe rapidement à Byzance. Byzance, qui deviendra Constantinople, qui deviendra Istanbul, c'est lui qui a prêché l'évangile là. C'est intéressant de voir qu'il va établir là des surveillants, dont un fameux Stachys, dont parle l'apôtre Paul dans une épître, l'épître aux Romains. Hein? Okay? André va remonter la vallée du Dniepr en Ukraine actuelle, et il va prophétiser sur ce qui sera la ville de Kiev, en prophétisant que là, il y aura une grande ville où il y aura de nombreuses églises d'implanter, ce qui est le cas, Maintenant, il y a la guerre, bien sûr, mais on sait qu'avant la guerre, il y avait une église avec Sande Adeleia qui avait plus de 30 000 membres. Hein, bon, maintenant, avec la guerre, c'est un peu différent. Voilà. Il va remonter, il va évangéliser en Russie, notamment dans la ville de Novgorod, l'apôtre André. Hein, okay. Puis ensuite, il va redescendre, notamment, il va redescendre en Turquie et à Éphèse, même il va aller jusqu'en Éphèse, à Éphèse, puis ensuite il va évangéliser en Grèce, il va évangéliser dans la ville de Patras. Je fais très rapidement, vous pourrez lire tout ça. Dans la ville de Patras, il va connaître un véritable réveil. L'épouse du proconsul va se convertir. Le proconsul ne va pas être trop content non plus. Et il va donc enfermer André et le condamner à être crucifié. Je passe très très rapidement. Il ne va pas être crucifié en étant cloué avec des clous. Il va être crucifié en étant attaché avec des cordes pour que la souffrance dure plus longtemps. Et il va être crucifié sur une croix en X, qu'on appelle généralement la croix de Saint-André. D'accord ? Je passe très rapidement. Comme il avait amené beaucoup de gens au Seigneur dans la ville, des gens vont venir et puis vont... comment ? Attendez, c'est quelle page là ? Voilà, vous voyez, il y a une image là qui montre le martyr de l'apôtre André. Voilà. Quand on peut lire que, alors que l'apôtre André priait, adorant le Christ et remettant sa vie au Seigneur, une lueur vive comme l'éclair aurait illuminé le ciel, aurait enveloppé l'apôtre de sorte que plus personne ne pouvait le fixer du regard. Cette lumière serait demeurée une demi-heure autour de lui, puis elle aurait décliné. Quand la lumière se serait estompée, l'apôtre André était mort. Il était parti dans la gloire de son Seigneur. Nous sommes en l'an 60. Okay. Le proconsul Egeatus, courroucé contre le peuple, méditait sa vengeance. Beaucoup de gens s'étaient convertis, mais il va mourir subitement, très rapidement, lui-même d'une mort très subite. On ne touche pas à un apôtre du Christ. Okay. L'apôtre Matthieu, alors... je vais aller extrêmement rapidement, vous pourrez lire vous-même. Hein. Ce qu'on peut savoir sur l'apôtre Matthieu, c'est que il a été lui aussi persécuté, et en particulier, il a évangélisé en Éthiopie. Hein. Alors il faut savoir qu'il y a deux Éthiopies à cette époque-là. Il y a une Éthiopie en Turquie, je dirais, hein, qui est une Éthiopie asiatique, mais qui est un petit pays. Puis il y a une Éthiopie, l'Éthiopie d'aujourd'hui. Alors lui, il a évangélisé l'Éthiopie asiatique. Et puis ensuite, il a été en Afrique. Il a beaucoup travaillé en Égypte et puis en Éthiopie, où là, il aurait rencontré le fameux eunuque éthiopien qui l'aurait introduit, non pas auprès de la reine Candace, mais auprès du roi qui était là. Et puis, il y a eu... je vous le mets, il est évangélisé auprès de la mère Caspienne, etc. On ne va pas tout... Le fils du roi était mort, et puis Matthieu l'aurait ressuscité. Il aurait guéri aussi en Éthiopie, donc la fille du roi, Iphigénie, qui était atteinte de lèpre. Suite à ça, de nombreuses personnes se sont tournées vers le Seigneur en Éthiopie. Voilà. Alors, une petite chose sur Matthieu, c'est qu'on pense qu'il a écrit en hébreu, en araméen et en hébreu un évangile de Matthieu. Ou plutôt, il aurait compilé des paroles de Jésus, uniquement des paroles de Jésus, ce qu'on appelait les logias de Jésus. D'accord ? Et puis, on en est sûr. Pourquoi ? Parce que on n'en a plus d'exemplaires aujourd'hui. Mais on en a retrouvé, normalement dans une bibliothèque à Césarée, où des hommes de Dieu sont allés travailler dessus. Jérôme, le fameux Jérôme qui avait traduit la Vulgate, il en a même retrouvé un exemplaire qu'il a recopié lui-même. Mais on n'en a plus d'exemplaires, et après, inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit l'évangile de Matthieu, mais en grec. D'accord ? Voilà. Et on sait qu'il aurait offert un de ces logias de Jésus Donc en hébreu, il aurait offert ça à Barthélemy. Il en aurait offert un à Barthélemy, et Barthélemy se serait servi de ça pour prêcher, notamment aux Parthes. Et il aurait traduit ça aussi dans une langue vernaculaire pour des Parthes et peut-être des Indiens. D'accord ? Ok. Alors je passe rapidement là-dessus, tout est intéressant bien sûr, hein, mais je passe rapidement. L'apôtre Barthélemy. Alors Barthélemy, alors lui c'est un cas particulier, parce que Bartholmaï, le fils de Tolmaï, ou le fils de celui qui suspend les eaux c'est, ça compare souvent la doctrine, hein, la parole de Dieu est comparée à de l'eau, voilà. Mais fils de Tolmaï, ça voudrait dire que peut-être il serait comment ? Alors Barthélemy, c'est l'apôtre Nathanaël, hein, c'est le même, hein, voilà. Hein. Mais on sait aussi que c'est quelqu'un. Tolmaï, c'était quelqu'un dont la fille c'était un roi cananéen, mais dont la fille avait épousé le roi David. Alors du coup, on pense que Barthélemy était peut-être quelqu'un qui avait une ascendance royale. Et on pense que, avec Matthieu, c'était les deux plus instruits parmi les apôtres. On sait que Pierre et Jean étaient agrammatos, agrammatoi, c'est-à-dire ils étaient incapables de dessiner une lettre, ils étaient illettrés. Hein ? Mais ils vont apprendre après à lire et à écrire, bien sûr. Hein ? Mais au départ, ils étaient illettrés, ce qui n'était pas le cas du tout de Barthélemy et de Matthieu. Alors, je passe rapidement, vous pourrez lire vous-même. Hein. Voilà. Barthélemy va répandre la parole de Dieu en Syrie, dans la province d'Éphèse. Il va être associé avec l'apôtre Philippe. Il aurait évangélisé en Lydie, en Mysie. Il va implanter des églises, etc., etc. Il va aller notamment à Hiérapolis, à Laodicée, à Colosse. Avec Colosse, n'est pas une église qui a été implantée par Paul. Paul n'y a jamais été. Hein. Voilà, ok. Je passe rapidement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous pourrez lire tout cela. Donc, Philippe et Barthélemy ont été condamnés par le proconsul Nicanor à être, à être crucifiés. Finalement, à Hiérapolis, c'est l'apôtre Philippe qui sera crucifié. Il sera d'abord crucifié par les talons, enfin ça c'est sombre. Et puis Barthélemy, lui, au dernier moment, il va être gracié. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, il va être gracié. Puis il va aller évangéliser ailleurs. D'accord. Il va prêcher l'évangile vers l'Orient. Il va prêcher en Arabie, le pays arabe, comme on disait à l'époque. Et il va notamment aller travailler avec les apôtres Thaddée et Thomas. Bon. Je passe rapidement. Vous pourrez lire tout ça. Barthélemy va prêcher aux Indiens et il va traduire dans leur langue l'évangile, selon Matthieu, du moins les logias, ces paroles de Jésus que lui avait donné Matthieu. Okay. Barthélemy va passer un temps aux Indes, donc il va aller rejoindre l'apôtre Thaddée, il va évangéliser la Grande Arménie et il va être... surnommé avec l'apôtre Thaddée les illuminateurs de l'Arménie. Okay ? L'apôtre des Arméniens et les illuminateurs de l'Arménie. Je passe rapidement. Voilà, vous pourrez lire tout ça. Un petit mot sur le martyr de Barthélemy. Il a donc été écorché vif. Écorché vif, ça veut dire qu'on pense avec un couteau, etc. C'est pour ça qu'il est représenté au Vatican comme tenant sa peau.